It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Nous sommes le 7 mai, peut-être faites-vous le pont, donc nous vous saluons là où vous êtes, mercredi, jeudi et peut-être vendredi, Olivier D'Artigol est avec nous, Gilles-William Golnadel, il était là ce matin, oui. Il est là ce soir.
Mais je suis là encore là ce soir jusqu'à minuit, hein. Si les gens veulent m'entendre, je suis là en permanence.
La clientèle.
Demain matin, j'exclus pas d'ailleurs de passer la nuit ici.
Mais est-ce qu'il a un lit de camp?
Ah bah bien sûr, un bafflant, oui, c'est
vrai. Philippe Bidja. Mais pourquoi vous êtes mis l'un à côté de l'autre?
Parce que là, Joseph est là.
Il adore être à côté
de l'autre. En général, j'aime beaucoup être à côté de
l'autre. Vous avez parlé ce matin.
Monsieur Bidger milite pour être à côté de moi.
Non, justement,
vous avez parlé ce matin. Est-ce que vous pourrez laisser parler Monsieur Bidger ce soir?
Je peux pas promettre.
Il faudra que vous y mettiez du vôtre.
Je ferai la section.
Mais oui, mais il faut se battre.
Il faut me faire.
Regardez, il est déjà dans les starfaces.
Encore une fois, je vous l'ai dit, avec vous, c'est perdant-perdant. Si jamais je ne dis rien, vous allez m'engueuler. Alors, on pourrait arrêter. Ça commence à...
Je ne crois pas. Olivier D'Artigol. Olivier D'Artigol, à qui je dis bonjour, bien sûr. Sciences Po, l'entrée des...
D'Artigol.
Oui. Qu'ai-je dit?
D'Artigol.
Non.
Non,
c'est vrai.
D'Artigol.
C'est une fois de trop, deux fois.
Mais c'est D'Artigol.
D'Artigol.
N'y retourne pas. Hein.
D'Artigol. D apostrophe, évidemment, puisque vous êtes un vieil aristocrate de Pau. L'entrée des locaux historiques de Sciences Po Paris a été bloquée de nouveau, brièvement, ce mardi matin par des étudiants pro-palestiniens. C'est un feuilleton. Au moins une centaine d'étudiants sont toujours présents aux abords de l'établissement. Et la tête de liste des Républicains, François-Xavier Bellamy, s'est rendue sur place à la rencontre des étudiants. Avec beaucoup de courage, d'ailleurs, et avec beaucoup de calme et de sang-froid et des mots... Je trouve qu'il faut écouter avec attention. François-Xavier Bellamy.
Est-ce qu'il y a un génocide à Gaza ?
Aujourd'hui, à Gaza, il y a un drame humain absolu qui est causé d'abord et avant tout par le Hamas. Et ceux qui ne sont pas capables de dire ça ne sont pas...
C'est pas le Hamas qui balance des bombes. Et en fait, on n'en est même pas là. La question, ça fait 75 ans que le conflit...
Qui retient des otages aujourd'hui ?
Ça a été démontré.
La France insoumise ici, ce n'est pas de l'opportunisme politique, peut-être. Diffuser les discours de Jean-Luc Mélenchon dans la rue Saint-Guillaume, ce n'est pas de l'opportunisme politique.
Il y a des étudiants qui ont été arrêtés ce matin. Donc forcément, on vient ici pour essayer de faire en sorte que ça se passe correctement.
Ça fait des semaines que vous êtes là. Ça fait des semaines.
Des gens qui sont incapables depuis le 7 octobre de dire que le Hamas est une organisation terroriste n'ont aucun honneur.
Je le dis.
Beaucoup de fermeté et beaucoup d'autorité de la part de M. Bellamy.
C'est le prof qui remet...
Exactement.
C'est exactement ça. C'est le prof qui remet d'une manière saine l'élève un peu nul
pour
en place.
Oui, il y a un gouffre.
Il remet. Il y a un gouffre. Il y a un monde...
Mais courage physique, courage intellectuel.
Bien sûr.
Et ça me fait plaisir de voir que François-Xavier Bellamy, que j'aime énormément pour son intelligence, son talent, sa courtoisie, est aussi capable de ce courage-là.
On ne le connaît pas dans ce registre-là, donc on le découvre. Quant à M. Boyard, je ne peux pas totalement le critiquer, puisqu'il n'a jamais passé autant de temps de sa vie sur un campus. Donc c'est plutôt positif pour lui. Il rattrape le temps perdu.
Alors le deuxième...
La vraie question, c'est est-ce que c'est un campus ou est-ce que c'est une ZAD ?
Le deuxième passage qui est peut-être encore plus intéressant. Il y a une professeure d'université que vous n'allez pas voir. Elle est masquée. Elle dit qu'elle est professeure d'université. Je pense que je la crois. Et elle dit cette chose, tendez l'oreille, qui est folle. Elle dit à François-Xavier Bellamy... Vous installez le fascisme en France et vous avez voté avec le macronisme ou la macronie une loi contre l'immigration. Cette dame est professeure d'université. Je veux dire, le niveau de cette femme qui dit vous allez installer le fascisme en France à François-Xavier Bellamy, je vous assure, ça peut interroger sur ceux qui sont aujourd'hui professeurs dans les facs. Écoutez cet échange.
aujourd'hui. Une loi sur l'immigration avec l'extrême droite, vous êtes en train de fasciser.
On assume absolument de vouloir maîtriser nos frontières.
Mes parents étaient colonisés, ils ont fait l'honneur de la France en venant la reconstruire après la Seconde Guerre mondiale et après la guerre d'Algérie. Et vous aujourd'hui, des gens comme mes parents, vous voudriez les exclure de la société française. Vous avez pavé la voie pour l'extrême droite.
Vous fascisez le pays. Vous fascisez le pays. Professeur d'université.
Je serais curieux de savoir ce qu'elle enseigne.
Ah ben, elle peut enseigner l'histoire. C'est-à-dire que Sandrine Rousseau a bien enseigné l'économie.
Mais,
donc,
Non, elle, on ne peut pas...
Oui, mais ne...
À François-Xavier Bellamy, vous fascisez le pays. En fait, tous ces gens, pour eux, quand vous êtes à la droite de Jean-Luc Mélenchon, vous êtes un fasciste. Voilà, c'est assez simple. Leur ligne, leur grille de lecture, depuis la nuit des temps, c'est cela.
Ceux qui ne pensent pas.
Et ceux qui ne pensent pas comme eux sont des fascistes.
Un seul bémol.
Enfin, la loi immigration, j'aimerais l'avoir avec moi, cette dame sur le plateau. Il n'y a rien dans la loi immigration.
Ça peut être critiquable, mais c'est pas du
tout. Il n'y a rien.
Je suis d'accord.
Il n'y a rien.
On ne la voit pas.
C'est sur 12 ans. Ou pas grand-chose.
Je ne sais pas si c'est une prof.
Et si elle était.
Ah ben, dit, je suis professeur, c'est ce qu'elle dit, moi. C'est ce qu'elle dit au début.
C'était vérifié, c'est une dame qui est connue dans les milieux extrémistes. Non, mais ce que je veux dire, deux choses. La première, c'est que je suis épaté par Bellamy, que je tiens davantage ou que je tenais davantage pour un grand intellectuel plutôt que comme un bretteur, comme un tribun. Donc il a peut-être forcé sa nature et je trouve que ça lui réussit bien. Et d'autre part, c'est dans l'ADN de l'extrême gauche d'être dans une sorte de délire, pour autant qu'il soit injurieux. Donc je crois qu'il ne faut pas... Et d'ailleurs, il a eu raison, il ne sait pas... Il ne s'est pas spécialement scandalisé de ce qui relevait effectivement du délit.
Monsieur Bellamy qui a tweeté d'ailleurs, et vous pouvez voir son tweet, ça suffit, nous ne devons plus céder un centimètre de terrain à ceux qui sèment le chaos. Je suis venu ici pour dire que Sciences Po, que nos enfants n'appartiendront jamais à l'extrême gauche, qui trahit toutes les valeurs du peuple français. Je n'en peux plus que nos universités soient prises en otage par ceux qui les bloquent pour faire avancer leur agenda politique, surtout quand cet agenda, c'est de refuser de condamner le terrorisme islamiste et de servir de caution à l'antisémitisme qui monte. Et on rappelle que c'est une minorité active, que ces gens représentent, il y a une centaine peut-être d'étudiants bloqués.
On rappelle aussi qu'il y a une ministre de l'université.
Mais elle est aux abonnés absents.
Elle est toujours aux abonnés absents.
Madame Retailleau, elle fait piscine. Elle prend le pont. C'est le pont depuis qu'elle a été nommée.
Aquaponais. Mais c'est dommage que, en effet,
c'est terrible. D'ailleurs.
C'est dommage que ce tweet n'émane pas de.
Mais c'est terrible. J'ai jamais vu ça. Elle n'est jamais sur place, cette dame. Elle n'intervient pas. Elle ne dit rien. C'est effrayant.
Et quand vous avez
les étudiants qui bloquent, écoutons-les.
Inutile.
Écoutons-les, les étudiants qui bloquent.
Nous, les étudiants, on va bien. À Paris, on va bien. Les étudiants en Amérique, ils vont bien. Nous, par contre, les Palestiniens ne vont pas bien. Eux, ils ne peuvent pas passer d'examen. Ils passent des examens dans des tentes et là, actuellement, ils se font bombarder. Il y a une invasion imminente à Rafah.
On est arrivé pour passer un partiel et on a vu la police, des étudiants qui ont une cause juste et la police qui les déloge violemment. L'institution qui aide la police, qui n'entend pas ses étudiants, qui n'entend pas la cause pour laquelle on milite. Et voilà l'état dans lequel on passe les partiels.
C'est une répression main dans la main entre Sciences Po et la police. Ça montre que Macron s'entend très bien avec l'administration de Sciences Po pour réprimer un mouvement qui pourtant est pacifiste, qui pourtant est non violent.
Ils sont une minorité, ils empêchent les
hommes.
Comment ?
Est-ce que vous vous rendez compte quand même, au-delà des slogans, que le dictateur chinois est à Paris et que ces gens-là, pour autant qu'ils sachent situer la Chine sur un planisphère, n'ont pas l'idée de parler à Sciences Po des Ouïghours ou des Tibétains. Il y a une sorte d'israélocentrisme fou.
Et il est intéressant de voir sur le plan des comptes rendus médiatiques. J'ai été frappé, par exemple, par Le Monde, qui, pour démontrer que l'ensemble des professeurs trouve que, en réalité, ce qui se passe à Sciences Po, c'est un débat parfaitement normal, fait appel à deux professeurs qui sont connus comme étant de gauche, Badi et Généreux, qui, eux, viennent dire « Ah, mais c'est tout à fait normal. Non, mais Je risquerais de m'énerver même sur un plateau qui brille par la modération.
Est-ce que l'on peut vouloir soutenir la cause palestinienne tout en défendant une solution à deux États, ce que font les deux noms que vous avez cités?
Oui, mais Philippe. Olivier, je mets en cause le déséquilibre absolu de l'information.
Ah, oui, oui.
La moindre des choses, c'est au moins de confronter à ces deux professeurs, d'autres professeurs, une majorité qui ne pense pas
comme ça. La nouveauté, la nouveauté, le point fondamental de ces derniers jours, c'est que nous avons se révèle au sens chimique du terme le fait qu'aujourd'hui, nous avions connu dans le passé un antisémitisme à l'extrême droite et qu'aujourd'hui, à gauche, l'antisémitisme s'enracine. Oui, je suis désolé, nouveauté. Ce qu'a dit Julien tout à l'heure était important sur les Ouïghours.
Il y a des médias de temps en temps qui veulent bien concéder, des médias progressistes, Le Monde, Libération, qui veulent bien concéder qu'il y a sans doute de l'antisémitisme, mais ils le passent à pertes et profits. Si, s'agissant d'autres ethnies, ils ne voyaient que le bien quart sûr. De la moitié, ils seraient complètement dans la colère.
Ne dites pas, Pascal,
il a raison.
Non. On le sait, extrême.
Pardonnez-moi.
Ça fait six mois que nous le disons depuis le 7 octobre. Pascal, je veux bien qu'on le redise encore.
Est-ce que l'ancien journaliste politique peut parler deux secondes? Pardon d'avoir cette légitimité-là. Au moins, cette légitimité-là. C'est-à-dire qu'on pouvait le dire, en effet, sur l'extrême gauche. C'est exprès que je ne parle pas de l'extrême gauche. Je dis qu'il y a une fraction de la gauche et pas de l'extrême gauche qui est aujourd'hui en train de renouer avec l'antisémitisme.
Entre les insoumis et le reste.
Qu'il y a eu à l'époque. À l'époque de l'affaire Dreyfus, que croyez-vous qu'écrivait Jaurès? Donc c'est en train de revenir. Totalement. La pendule est en train de revenir. Ouais. Je suis désolé.
J'entends bien. Monsieur Attal,
c'est un élément fondamental.
Je suis d'accord avec vous, mais on ne va pas le dire jusqu'à la fin, jusqu'à 20h50. Moi, je veux bien qu'on dise l'extrême gauche et la gauche sont antisémites, mais je veux bien qu'on avance.
C'est pas l'extrême gauche, c'est la gauche.
La gauche n'est pas antisémite. Tu ne peux pas dire que la gauche. Il y a au sein de la gauche.
J'ai entendu ce que j'ai dit.
La gauche.
Sois attentif.
Le débat est
attentif. La gauche.
Le débat est enfin long.
J'ai dit la gauche.
Non, j'ai dit qu'il y a une partie.
J'étais très attentif.
J'ai dit qu'il y a une partie de la gauche, et non pas de l'extrême gauche, qui est devenue antisémite.
Alors qui? Voilà. Alors
une partie de la gauche.
Alors les insoumis. Voilà. Alors après.
Non.
Mais allons-y.
Dans la gauche, mais dit. Non, il y a une complaisance, une acceptation.
Je vous cite.
Non, mais demandez. Je vous réponds.
J'ai dû répondre. Tous ceux.
C'est gazeux. Sinon.
Non. Tous ceux qui disent aujourd'hui sale sioniste et qui pensent sale juif. Et ils sont nombreux. Et ce n'est pas seulement les filles. Crois-moi.
La gauche médiatique se compromet en ne disant rien. Je pense au service public qui n'a pas reproduit le discours merveilleux de Sophia Aram hier soir. Ils ont pas dit à France Inter. Allez, à France Inter, on l'a pas dit. Je pense au Monde et à Libération.
Alors passons-le parce que. Passons le discours de Sophia Aram. Benjamin Cuneo. Moi, je veux bien qu'on change complètement le chapitre de cette émission.
Monsieur. On a pris le pouvoir.
Ça ne me dérange pas. Je suis d'une souplesse totale.
Voilà.
Vous voulez parler de choses qui n'étaient pas forcément
exactement,
au programme.
Exactement. C'est la folie du jour.
Pour une fois qu'on rend hommage à Sophia Aram.
Ça ne me dérange pas.
Elle l'a fait.
On l'écoute. Allez, écoutons Sophia Aram, ce qu'elle disait hier soir. Mais elle a dit quelque chose, effectivement, d'intéressant, peut-être de courageux dans son milieu.
Oui.
Effectivement, le deux poids, deux mesures. Écoutons Sophia Aram, au Molière.
Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France, ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes? de cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens? Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas? Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains.
Voilà, et ben ce matin...
Énorme ce que dit Amas Escaron, c'est Gedge qui est attaqué en tant que juif par Mélenchon et la présidente de l'UNEF, pareil. La gauche, point d'interrogation, nous dit-il Philippe Guibert qui nous regarde. Il s'adresse à vous.
Donc je précise qu'il doit écouter, c'est-à-dire que j'ai dit qu'il y avait...
Et quelle gauche après?
Ah oui, quelle
laquelle
gauche?
Parce que vous avez dit la France insoumise, d'accord.
Il y a deux gauches aujourd'hui.
Le PC, non.
Il y a deux gauches aujourd'hui.
Non.
Il y a deux gauches
aujourd'hui. Mais complaisance, oui.
Vous avez parlé complaisance, d'une partie oui. de la gauche.
Mais qui? Complaisance, oui.
C'est-à-dire pas, que... simplement, pas simplement la France insoumise, mais oui. au-delà de la France insoumise. Mais vous avez des étudiants, vous avez des étudiants. Ah, oui. On parle pas simplement...
Dans l'échiquier politique.
On ne parle pas simplement...
En fait, c'est l'espace médiatique, c'est le Monde, Libération qui sont des gens de gauche. Oui. France Inter,
exactement.
Le Monde, Télérama, c'est exact. Ça que vous visez. Oui. Dites-le, c'est l'espace médiatique. Oui. Les journalistes de gauche, oui. je peux en citer quelques-uns. Oui.
Non mais je pense que tout, je pense que même, tout le monde non, n'est pas, pardonnez-moi, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas, tout le monde n'est pas carté. Ce que je dis, c'est que de toute manière, il y a eu dans l'histoire de la gauche, comme l'atteste l'époque, le moment Dreyfus.
Vous l'avez dit, vous l'avez dit.
Mais, d'accord.
Oui, mais, ne redisons pas ce qu'on a dit.
Monsieur Philippe Guibert n'entend pas. Il faut le lui répéter.
Là, il a entendu.
Il y a bien de gauche. Nous avons un exemple. Écoutez, Monsieur Attal. Nous avons avec Madame Sophie Arab.
Oui, un exemple de cette gauche.
Bon, non,
mais
non,
pas du tout. Non, tu me dis pas que je suis contre.
Non, mais
je te dis simplement que tu as dit tout à l'heure la gauche.
Non.
Je te demande
une partie.
Tout simplement. Non, j'ai dit la gauche.
Non, j'ai dit tout.
Je demande simplement. C'est une question. C'est une question.
Oui,
Joseph. Tu dis les insoumis. Et après, si ça va au-delà, cet au-delà, c'est qui?
Bon.
Vous avez répondu.
Quand?
Non, ça, c'est très simple. C'est-à-dire que pardonnez-moi, mais tout l'électorat socialiste n'est pas sur la ligne Gedge.
Ouais.
Voilà, c'est tout.
Olivier Faure a vendu son âme pour
un autre plan
de lentilles.
Ah bah c'est tout le sujet.
Pour avoir son siège.
Et
la prochaine fois, vous savez ce qu'il a dit Olivier Faure aujourd'hui, c'est très intéressant. Il a dit Mélenchon fait tout pour qu'il n'y ait pas d'alliance. Évidemment, il commence à avoir peur parce qu'il perd son siège. Sans Mélenchon, il perd son siège, Monsieur Faure. Il retourne aux abonnés absents.
Vous savez de quoi fait l'avenir politique dans notre pays? Vous pensez qu'un accord NUPES se redessinera?
Oui.
On a déjà discuté. Je prends le pari ici.
Oui, ils iront tous ensemble pour garder leur siège.
Je ne crois pas.
Mais
vous êtes. C'est la pitié.
Et puis, je vais vous dire quelque chose.
Qui vient en mangeant comme chacun.
Monsieur Glucksmann, bien mou.
Comment?
Je trouve M. Glucksmann bien mou.
Ah, ça, mais écoutez ce qu'il a dit tiens, sur l'antisémitisme. Il a dit un mot ce matin, c'est Benjamin Cuneo qui me le propose.
Mais il n'est pas allé à Sciences Po, lui.
Écoutez, M. Glucksmann.
Il s'est fait dégager d'une manière...
Écoutez.
C'est nouveau. Et c'est une libération de la parole et de la haine qui est extrêmement dangereuse. Et ça s'inscrit dans un cadre général. Ça cible particulièrement les Juifs depuis le 7 octobre. Mais ça s'inscrit dans un cadre général qui est celui de la brutalisation de la parole publique, du débat public, de la libération des haines et des violences. Et moi, je vous le dis. Il faut mettre un stop tout de suite à cela. Il faut arrêter d'attiser le feu. Il faut faire très, très, très attention puisque ce type de violence, ce type de stigmatisation, ce type de comportement emporte les démocraties dans l'abîme.
Oui, sauf qu'il ne cite pas...
Pas de dix personnes.
Attendez.
Oui, mais...
Attendez. Il ne cible pas. Ouais. Ça ne veut rien dire ce qu'il dit.
Exactement.
Parce que, non. Par exemple, David Lisnard a tweeté aujourd'hui « Une des sources de l'antisémitisme qui prospère, c'est une immigration musulmane non contrôlée.
Voilà. »
Ça, c'est clair.
Voilà.
Ça, c'est clair. On est d'accord ou on n'est pas d'accord avec lui, mais ça, c'est clair.
Voilà.
Et ce que dit M. Glucksmann, il ne cible ni LFI, parce que c'est quand même possiblement des voix pour lui, ni effectivement...
Un bouillon de 11
heures. Sauf que LFI l'a déjà ciblé, parce qu'il l'a déjà fait il y a quelques jours.
Il n'est pas capable de répéter
non, mais on est...
Philippe, écoutez, soyez heureux.
On n'est pas tellement riche en personnalité estimable, même de l'autre camp,
non.
qu'on puisse dénigrer Raphaël.
Philippe Bilger a raison.
Philippe, pardonnez-moi, il est avec la grille de lecture de Sophie Aram dans le camp du silence.
Voyez-moi, quand il s'agit
trop. C'est le si c'était l'extrême droite qui avait attaqué. Quelque part, il montrait du poids. La gauche a un problème avec l'extrême gauche.
J'attire votre attention sur l'actualité récente de l'élection européenne, où Glucksmann est terriblement attaqué par les insoumis, d'accord, et où l'expression publique de Guzman sur le conflit israélo-palestinien est justement, venant de la gauche, une expression parfaitement forte et claire.
Mais vous renversez la proposition. Que Glucksmann soit attaqué par LFI, oui, mais la gauche a toujours un problème à mettre au pilori l'extrême gauche. Je suis désolé de vous le dire, parce que c'est la réalité.
Vous savez que c'est Doriot. Vous pensez que les relations sont agréables.
Là où je vous rejoins, Pascal.
Alors pourquoi il ne le dit pas ? Pourquoi il ne cite pas Glucksmann ? Pourquoi il ne cible pas ? Vous croyez qu'il ne ciblerait pas si c'était Marine Le Pen ou Éric Zemmour ? Il donnerait les noms ?
Glucksmann, sur la toute récente période, a attaqué Mélenchon et les Insoumis de manière très, très directe.
Et d'ailleurs, il n'a pas tweeté David Lisnard, c'est Sonia Mabrouk qui nous écoute et que je salue, qui dit il l'a dit sur notre plateau.
D'accord.
Et vous savez pourquoi je ne peux pas passer cette séquence ? Est-ce que vous savez pourquoi je ne peux pas passer cette séquence ?
Pourquoi vous ne pouvez pas passer cette séquence ?
Comptabilisation.
Comptabilisation.
Donc j'ai cru que c'était un tweet. En fait, c'est une citation. Je n'ai pas le droit de passer le son de David Lisnard chez Sonia Mabrouk parce que je suis dans le temps de parole. D'accord. Je n'ai plus le droit de passer. C'est news. Nous n'avons plus le droit de passer les Républicains jusque, je ne sais plus quand.
Aux lecteurs qui nous écoutent, il y a quelques années, tu sais très bien, Alexis Lacroix a publié un livre qui est en livre de poche, qui s'appelle Le socialisme des imbéciles, puisqu'il parlait de l'antisémitisme. Nous sommes confrontés au retour du socialisme des imbéciles.
La pause.
Je suis désolé.
Il est 20h26. Est-ce qu'on a une image du Parc des Princes ? Je demande à Benjamin.
Oui, 47 000 personnes.
Non, on ne va pas parler de ça.
Si. Il y a quand même une actualité sportive.
Non, il y a quand même.
D'abord, c'est sur Canal ce soir à 21h.
Oui. Ah oui.
Vous n'aimez pas le football ?
Je ne pratique que le polo.
Mais parce que vous êtes, ne venez pas des milieux populaires, c'est sûr.
Non, n'y voyez pas.
Ce soir, le match. PSG ce soir. PSG ce soir va battre le Borussia Dortmund et va se qualifier.
Mais
on sait rien.
Il fait un pari.
Un souhait, c'est un vœu.
Non, je vous dis, non, j'ai regardé. Ils vont gagner. Bien sûr, ils vont gagner ce soir. Ils vont gagner ce soir et ils vont être en finale de Ligue des Champions.
Aucune équipe qui a perdu le match aller au quart et perdu le match aller en demi ne s'est qualifiée en finale.
Non, mais ça, gardez vos statistiques.
Olivier.
C'est convaincant.
Non, mais qu'est-ce que vous. Écoutez. Parlez politique, ne parlez pas des choses sérieuses.
Pardon d'être scientifique.
Ne parlons. Laissez aux gens sérieux de parler.
C'est une autre manière de mentir, on sait bien.
Ouais.
La pause, nous revenons dans
excellente intervention.
On va écouter Gabriel Attal, qui était hier soir d'ailleurs au dîner du CRIF. Pour la première fois, Bernard-Henri Lévy était au dîner du CRIF. Il a d'ailleurs tweeté, alors qu'il n'y allait jamais. Je sais que je vous ai posé la question ce matin, vous-même n'y étiez pas. Vous êtes en décalage parfois avec le CRIF.
L'année d'avant.
Oui, on peut changer. Vous savez, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis, comme on dit. Mais là, le CRIF...
Il serait présent l'année prochaine.
Le CRIF a peut-être un peu évolué.
Oui, une évolution un peu lente. Oui.
Il a évolué. Il a objectivement évolué.
Il a découvert effectivement que l'extrême gauche existait.
Oui.
Ouais. Peu tardivement.
Et puis que l'extrême droite peut-être était moins présente.
Non, il renvoie dos à dos. Oui.
Bon, écoutons M. Attal qui s'est exprimé sur LFI. C'était aujourd'hui à l'Assemblée nationale.
Jamais la France n'a détourné le regard. Nous n'avons pas détourné le regard de l'attaque terroriste abominable commise par le Hamas le 7 octobre en Israël. Et nous ne détournons pas le regard de la situation humanitaire dramatique à Gaza. Je vous remercie, Monsieur le Président Chassaigne, d'avoir fait mention des otages israéliens et français à Gaza. Je le dis parce que c'est tellement rare, venant malheureusement de la NUPES, et notamment de la France insoumise, qui n'a jamais de mots pour nos otages. Et je le dis, ces indignations sélectives, elles doivent cesser. Elles doivent cesser de la part de ceux... De la part de ceux qui font toujours entendre une voix contre Israël, mais qui sont sans voix face au Hamas et à ces exactions qui sont commises.
Bon, effectivement, c'est le pendant de ce que disait Madame
Sophie Aram.
Exactement. Oui. Madame Aram. Puisque vous avez la parole, cher Gilles William Goldnadel, je vois que Jean-Luc Mélenchon a perdu son procès.
Oui.
Et vous avez tweeté, le leader insoumis avait assigné en justice Radio J et le journaliste Frédéric Aziza pour ses propos tenus par Amine El Khatmi, qui avait qualifié Jean-Luc Mélenchon d'ordure antisémite. Est-ce que nous avons d'ailleurs cette séquence? Et on va voir votre tweet que vous avez écrit aujourd'hui. J'ai le plaisir, sans mélange, de vous informer que le sieur Mélenchon a été débouté par le tribunal de Paris de voir Radio J et mon client Frédéric Aziza retirer l'émission dans laquelle mon client Amine El Khatmi le qualifiait d'ordure antisémite. Et en plus, vous allez le faire payer 2000 euros.
Oui, monsieur.
Bon, voyons la
motivation.
Voyons la séquence et après, vous nous expliquez de quoi il s'agit.
Mélenchon, c'est quoi? C'est un parcours à l'ADA, à la Doriot? C'est un antisémite à l'insu de son plein gré ou un antisémite tout court? Mélenchon.
Je n'arrive même plus à vous répondre.
Antisémite ou pas?
Mais écoutez, avec tout ce que je viens de vous décrire, que faudrait-il de plus?
Non, mais la question que je vous pose.
Donc je vous le dis, vous savez, j'ai écrit dans un tweet qu'il était antisémite.
Et vous le dites aujourd'hui?
Il a déposé plainte contre moi. Et à la faveur d'un accord entre nos avocats, la plainte a été retirée. Mmh. Eh bien, je regrette que cette plainte ait été retirée et je regrette de ne pas avoir eu le privilège, l'honneur et le bonheur d'expliquer devant un tribunal en quoi je considère que M. Mélenchon est antisémite.
Et Mélenchon est une ordure antisémite.
Oui.
Hein?
Oui.
Comment vous le dites?
Mélenchon est une ordure antisémite.
Oui.
Voilà.
Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est qu'effectivement, M. Mélenchon s'est permis d'attraire Radio J et Frédéric Aziza, que je défends, devant le tribunal. Bien mal leur en a pris, pour des raisons essentiellement juridiques. Ils se sont cassés le bec, pour parler poliment. Ils seront condamnés à des dommages intérêts. La plainte était, je suis désolé de le dire, l'assignation était mal rédigée et sur le fond, en plus, M. Mélenchon n'a pas osé, comme le dit Amine, réclamer des comptes sur le fond, sur le fameux ordure antisémite. Bien sûr, il n'a pas envie parce qu'il sait très bien qu'on va lui sortir, par exemple, le fait qu'il tienne le peuple juif comme un peuple déicide, ce qui n'est pas la marque de le philosémitisme le plus exacerbé. Mais ce que je veux dire aussi, c'est dans l'ADN de l'extrême gauche que d'être très hostile à rendre des comptes en ce qui concerne leurs propres expressions. Il n'est pas question que Mme Hassan ou que Mme Panot puissent répondre du délit d'apologie du 7 octobre. Ça, c'est pas question. Ça halte à l'atteinte à la liberté d'expression. Mais eux, par contre, ça les dérange pas de mettre les gens devant le tribunal. Eh ben, ça n'a pas marché.
William Gonnelly, vous êtes passé vite. Ce que je comprends donc, c'est que la décision n'est pas portée sur le fond.
Non, sur la.
Non, mais ça se passe. Non, mais ça se passe toujours
parce
comme
qu'il n'y avait jamais eu de.
Non, mais... de bref.
Oui, d'accord.
Merci. Voilà. Ça se passe toujours comme ça. Vous invoquez d'abord des arguments juridiques. Mmh. Et comme le tribunal a bien voulu faire droit à nos arguments juridiques. Mmh. Mais j'aurais été ravi.
Non, ce qui aurait été intéressant, c'est d'aller sur le fond.
Non, mais j'aurais été ravi que le fond se mette.
Autre sujet.
Pas porter plainte.
Autre sujet. On va refermer ce chapitre ensuite. C'est les tombes taguées. Ça, c'est toujours intéressant parce qu'il y a deux poids deux mesures. Plus de 80 tags faisant référence à l'islam et ciblant des personnalités publiques ont été découverts hier dans le cimetière de Tourtoirac. Vous savez où c'est Tourtoirac?
C'est en Dordogne.
Exactement, c'est un petit village. Il se trouve que par le plus grand des hasards, je connais ce petit village. J'ai passé du temps à Tourtoirac, figurez-vous.
C'est à côté d'Exideuil.
Exactement, et des investigations sont en cours pour identifier les malfaiteurs. On en parle assez peu.
Oui.
Et effectivement, d'autres phrases ont pu être inscrites. Je vous hais, je te tuerai, sioniste, Martel ne reviendra pas, Allah, les gens du livre doivent se soumettre à Allah, etc. Bon, il y a assez peu de réactions, là encore, dans l'espace médiatique.
Des personnalités politiques et médiatiques, Pascal?
Je ne vais pas les citer toutes parce qu'il se trouve même qu'il y en a. Oui,
voilà.
Bon, peu importe. Dis, Adrien Fontenot, voyez ce sujet.
C'est un phénomène qui n'en finit plus dans le département. Tourtoirac, petit village de Dordogne, a vu les tombes de son cimetière être recouvertes de tags. Des insultes et même menaces de mort sur certaines personnalités. Depuis décembre 2023, plusieurs communes du nord-est de la Dordogne ont déjà subi ces profanations. S'il cherche à relativiser, le maire de la commune ne peut cacher son indignation.
Il faut surtout considérer que les gens qui font ça sont vraiment minables. On attaque nos morts, on attaque les vivants à travers les morts. Voilà, c'est lâche, c'est petit, c'est minable. Voilà, ce sont des gens qui ne méritent pas de respect.
Comme pour les précédents, l'association SOS Calvaire est entrée en action. Spécialisée dans la sauvegarde et la restauration du patrimoine, une vingtaine de bénévoles sera mobilisée pour nettoyer les tombes. Pour son directeur, ces tags sont le témoignage d'une société de plus en plus violente.
Quoi de plus violent que de profaner la sépulture d'une personne, c'est-à-dire le juste repos dû aux anciens qui ont œuvré toute leur vie et qui désirent reposer en paix. En fait, c'est extrêmement violent pour les gens, pour les descendants et même pour les gens du village. Donc en effet, ça dépeint un peu un climat pas très apaisé en France.
Une enquête est d'ores et déjà ouverte pour dégradations aggravées.
Il y a une double abomination, bien sûr, les tombes profanées. Et il y a donc une série de personnalités politiques et médiatiques dont a été mis la date de naissance, sans erreur, et la date programmée
Pathétique.
Ouais. Je porte à votre connaissance. Ce sont des gens qui suivent un peu l'actualité. Hein. Ce ne sont pas des gamins.
Je porte à votre connaissance que hier ou avant-hier, un cimetière aux États-Unis, un cimetière juif a été profané avec des insultes antisionistes. Alors ça peut être évidemment que de l'antisionisme et pas de l'antisémitisme.
L'affaire Colombe, si j'ose dire. Et Colombe, je faisais le parallèle, ou vous faisiez le parallèle plus exactement, avec Papivoise.
Oui, c'est ce qui m'a frappé.
Ah, et Papivoise, il faut rappeler qui était Papivoise.
Papivoise, c'est cette personne qui a été agressée. On a tous en mémoire ce visage qui était un visage tuméfié, c'était terrible. Et ça pour avoir nié... Oui, vas-y.
Mais c'est avant
2002. Le dernier week-end avant 2002, il a brûlé. La maison a été brûlée et il est sans rien.
C'est horrible.
Exactement. Et vous faisiez un parallèle avec Colombe. Alors on va voir le sujet parce qu'elle a été réintégrée aujourd'hui au Resto du Cœur.
Avec une belle spontanéité.
Oui, mais bon, bien évidemment, mais ils ont fait une bêtise. Mais pour le coup, c'est le responsable local qui a fait n'importe quoi. Et puis, on lui a tapé sur les doigts, visiblement, au plus haut niveau. Et il a été réintégré, même si le communiqué est plus alambiqué que ce que je vous dis quand même. Adrien Fontenot.
Colombe sera finalement de retour au Resto du Cœur. Une décision accueillie avec soulagement par cette bénévole de l'association depuis 34 ans. À l'origine de la polémique, cette interview tournée par nos confrères de TF1, où Colombe, 60 ans, évoque les raisons de sa venue au meeting du Rassemblement National le 1er mai à Perpignan.
Moi je suis au RSA et on a du mal à vivre. Au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue.
En affichant son appartenance au Resto du Cœur lors de ce meeting, Colombe a reçu un rappel à l'ordre d'un responsable de l'association, la charte du collectif, obligeant les bénévoles à respecter le principe de neutralité politique.
En fait, ce ne sont pas les états-majors des Restos du Cœur qui lui ont demandé de partir. En fait, c'est une responsable locale qui a pris l'initiative de lui demander de démissionner.
Son message a en tout cas été reçu. Au chômage depuis 3 mois, Colombe retrouvera un emploi prochainement, offert par la mairie de Perpignan.
Elle va rencontrer cet après-midi la directrice du CCRS et peut-être pour trouver un emploi. Je sais que c'est une dame au très grand cœur, qui ne fait pas de politique, mais qui a chevillé au corps l'entraide et la solidarité avec les autres. Eh bien, j'allais vous dire bienvenue.
Un nouveau poste donc pour Colombe et un autre bénévole maintenu au sein des Restos du Cœur.
Là où il y a un parallèle, c'est la question n'est pas Rassemblement National ou ce qu'elle peut dire. Moi, ce qui me frappe, c'est que les premiers mots de cette femme, de cette dame, est d'être surprise qu'un micro se tende pour la faire parler. Et c'est pour ça que le journaliste de TF1, il faut le citer, hein, Paul Laroutou, a été excellent. Il l'a fait d'ailleurs avec beaucoup de pudeur. Et elle est surprise. Elle dit, comment peut-on s'intéresser à quelqu'un comme moi avant de dire, bon, son parcours, qui est un parcours édifiant. Ensuite, après, on apprend qu'elle abrite des personnes chez elle, alors qu'elle n'a aucun moyen. Enfin, c'est quand même... Et donc, pourquoi? C'est parce que avec l'affaire Papivoise, qui est juste avant la présidentielle, c'est-à-dire, Papivoise, on nie quelque chose qui est l'insécurité. Et là, en fait... Et c'est quelque chose qui explose évidemment à la gueule de.
Mais là, qu'est-ce que ça veut dire?
Et là, ça veut dire quoi? Qu'il y a des gens, qu'il y a des personnes qui sont des invisibles. Alors évidemment, tout le monde.
Non, mais c'est pas ça l'essentiel, si vous me permettez.
Non, mais.
C'est que ces gens-là, ils votent au Rassemblement National. Oui. C'est ça l'essentiel. C'est-à-dire que la gauche a laissé tomber ces gens-là. Oui. C'est ça le message le plus important.
Bien sûr.
Mais pas en partie. Complètement, vous croyez que la gauche de Glucksmann, la gauche de Strauss-Kahn, la gauche de Hollande, elle parlait aux classes populaires? Non. C'est bien le problème. La gauche de Mitterrand, la gauche de Pierre Mauroy parlait.
Oui, oui. C'est
exactement ça.
Et nous ressent.
Et ça fait 40 ans. Quoi, ça fait 40 ans, ça fait 30 ans.
Mais attendez, pourquoi j'ai pas employé le mot invisible? C'est parce que cette partie-là ne les voit même pas.
Oui.
Ne les voit pas.
Alors, le Rassemblement National, manifestement, les voit.
Et en plus, les ouvriers, en plus, pardonnez-moi, c'est Louis Ayot qui a une forme de bonhomie, d'humanisme, qui se présente ainsi. Et évidemment, enfin, comment ne pas voir ce parallèle avec
l'affaire Pacuoi? C'est les conséquences d'un rapport de Terra Nova, je ne sais pas si vous en souvenez.
Oui, bien sûr, ouais. Évidemment.
C'est parti de là.
C'est même avant.
Mais le choix politique d'aller vers d'autres segments électoraux, comme on dit.
Je me souviens avoir eu ces conversations avec mes amis du PS dans les années 90, quand des gens comme Strauss-Kahn montaient, comme des gens comme Attali, Fabius pouvait monter. Comment ces gens pouvaient-ils représenter le peuple de gauche? Avant, ils avaient Bérégovoy, ils avaient Pierre Mauroy. Ensuite, ils avaient Dominique Strauss-Kahn. C'est pas les mêmes. C'est assez simple, hein. Vous savez, c'est pas la même chose. Donc, c'était électorat populaire. Il a quitté peu à peu.
Mauroy les avait d'ailleurs alertés.
Bien sûr.
Dernières interventions politiques en comité de campagne.
Bien sûr, et Pierre Mauroy était un des derniers, effectivement, à représenter ce peuple de gauche. L'affaire Matisse, si j'ose dire, le dernier hommage a été rendu à Matisse aujourd'hui, au stade Gaston Petit de Châteauroux. Avant ses obsèques, l'émotion était au rendez-vous, tué de 4 coups de couteau, vous le savez, par un adolescent du même âge. Samedi 27 avril, son histoire a bouleversé bien au-delà de la ville. Je vous propose d'écouter Thibault Marcheteau qui était sur place.
Cet ultime hommage, il a duré une heure à l'intérieur du stade de Gaston Petit, ici à Châteauroux. Et les clins d'œil à la passion du jeune Matisse ont été très nombreux. Durant cette cérémonie, le cercueil blanc est arrivé frappé du blason du Paris Saint-Germain. C'est d'ailleurs sur la musique de l'entrée des joueurs parisiens que le cercueil est rentré sur la pelouse de ce stade. Le capitaine de la Berrichonne de Châteauroux, le club dont était fan le jeune Matisse, est venu lui-même déposer un maillot dédicacé sur le cercueil. Enfin, la famille a pris la parole. Le père a juré devant le cercueil de son fils qu'il continuerait à faire de la prévention auprès des médias, auprès des jeunes, pour que ce drame n'arrive plus jamais. Je vous propose d'écouter les Castelroussin à la sortie de cette cérémonie.
Ils ont fait un très très bel hommage. Je remercie beaucoup les parents d'avoir joué le jeu jusqu'au bout de la passion de leur fils et de ne pas être resté dans le classique et d'être toujours ici, rester très fort dans leurs mots. C'est des beaux parents, c'est des belles personnes, c'est très bien.
Pour moi, oui, c'est très important. J'ai un petit-fils qui a cet âge-là. Et puis, je connaissais un petit peu les parents. Et puis, ça ne devrait jamais arriver. Quoi, voilà.
Le cercueil a quitté le stade sur une hola à la demande de la famille pour un ultime clin d'œil à la passion de cet adolescent mort à 15 ans. La famille s'est ensuite réunie dans la plus stricte intimité pour rendre un dernier hommage à Matisse.
Il n'y a pas grand-chose, évidemment, hélas, à dire. Je vous propose d'aller à la Sorbonne, où les policiers sont en train d'évacuer des étudiants qui ont pris la Sorbonne. Et vous allez peut-être voir ces images que vous apercevez, en espérant bien sûr qu'il n'y ait pas de violence. Mais il y a quand même une volonté politique de ne pas laisser pourrir ces occupations, de jeunes étudiants. En ce 7 mai au soir, et évidemment, si nous avons de nouvelles informations, nous serons en direct de la Sorbonne. Guillaume Meurice, puisque ça devient une affaire d'État, les syndicats de Radio France ont appelé à faire la grève dimanche pour protester contre la répression de l'insolence et de l'humour. Après la suspension de Guillaume Meurice, ainsi que contre des menaces qui pèsent sur certaines émissions de France Inter. Je vous propose d'écouter Rachida Dati, puisqu'elle a été interpellée aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Madame Dati.
Et sur le sujet justement de l'humour dans les médias, est à évoquer avec mesure, mais sans aucune caricature. Moi, ça ne me fait pas rire. Non, justement, ça ne me fait pas rire, monsieur le député. En octobre 2023, vous le savez, l'ARCOM, non parce que c'est important de le préciser, parce qu'il peut y avoir de la confusion entre une décision de justice qui a classé justement une plainte et puis une décision de l'ARCOM. En octobre 2023, l'ARCOM avait mis en garde de manière très argumentée. Je vous renvoie aux détails de sa décision. France Inter, suite à la chronique de Guillaume Meurice. Ces éléments étaient parfaitement connus et aussi, de manière aussi rapide de Guillaume Meurice. Malgré cela, Guillaume Meurice a refait sa chronique à l'identique. Et donc, s'imposant à nouveau soit un signalement, donc une saisine de l'ARCOM, voire à une sanction de l'ARCOM, Radio France ne pouvait pas ne pas réagir. Et donc, vous indiquez à juste titre le classement par la justice de la plainte. Mais cela n'est pas en contradiction avec la décision de l'ARCOM. Pourquoi ? Parce que l'ARCOM, elle ne fait pas respecter le code pénal, mais le cahier des charges qui est imposé à Radio France.
Non, mais écoutez, c'est une lecture très juridique, alors qu'il faudrait une lecture politique.
Pour dire les choses.
Est-ce que Philippe Bilger peut parler ?
Mais on ne peut plus ici.
Soyez sympa.
Peut-être un geste.
Moi, déjà.
J'ai parlé plus que M. Bilger.
Oui. Oh, largement. Très nettement.
Écoutez, maintenant, on va compter. Je veux qu'il y ait le relâche.
Mais non, mais
ça serait bien d'entendre parole
afficher. Moi, maintenant, je veux le relâche.
Mais Pascal n'est pas un arbitre quantitatif. Il ne s'occupe pas des temps de parole.
Allez-y.
Vous avez le droit à des priorités tout le temps. Laissez un peu parler.
Allez-y, M. Bilger.
Je vais. Non, moi, je défends Adèle Von Rett. Absolument. Guillaume Meurice, pour moi, n'est pas un humoriste, pas seulement parce qu'il ne fait pas rire, mais parce qu'en réalité...
Il ne vous fait pas rire, mais là, pour le coup, c'est subjectif,
non.
Peut-être.
Oui, non, mais j'allais dire, il ne me fait pas rire parce qu'il ne fait pas d'esprit. Il fait de la dénonciation politique. Je suis persuadé que si sa cible n'avait pas été Netanyahou, on n'aurait pas eu cette fronde et ce soutien apporté à cette personne qui réitère.
Vous vous retrouvez cul par-dessus tête. Vous allez devoir défendre Meurice. Donc c'est sûr que demain matin, un édito de défense du soldat Meurice face à la décision politique injuste de France Inter.
Mais pas
allez-y,
du tout.
Allez-y.
Pas du tout, au contraire.
Mettez la plume dans la plaie.
Je trouve que c'est très bien. C'est très bien, il récidive, il n'a pas justifié, et le fait que la procédure a été classée, ça ne m'étonne pas, parce que la justice dans ces domaines ne va pas vers le risque le plus évident, et je trouve très bon Adèle Von Rett qui en tire les conclusions.
Non, mais en plus, effectivement, il lui fait un bras d'honneur, il y a aussi cette dimension-là, c'est-à-dire qu'ils ont eu sans doute un entretien préalable la première fois. Et ce que je trouve extraordinaire, c'est l'état d'esprit que ça révèle. C'est-à-dire le rapport que tu as avec celui qui est ton patron. Je trouve que c'est pas une manière...
Pour ne pas parler de l'émission qui a été consacrée.
Voilà, donc ça veut dire...
En hommage.
Je n'emploierai pas le mot, mais vous le devinez, ça veut vraiment dire ça. Je trouve que cet état d'esprit ne me convient pas. Voilà.
On est d'accord.
Monsieur Golnadel, vous souhaitez prendre la parole.
Non, mais je vais dire des choses tout à fait basiques.
Ah, ben ça part.
Tout à fait basique. Premièrement, le classement sans suite, c'est une légion d'honneur pour les insoumis, pour Monsieur Meurice. Il est tout à fait normal, puisque le procureur a classé, parce que le juif circoncis traité nazi n'a pas porté plainte. Il eut porté plainte ou il lui dit simplement « je ne m'oppose pas à la plainte » que la plainte, elle suivait son cours. Donc il n'y a pas de quoi triompher. Et deuxièmement, la faute commise par Meurice est totalement détachable du problème pénal. Il a réitéré après une mise en garde de l'ARCOM. Donc Mme Von Rett était obligée de sévir. Donc qu'on se permette à nouveau de nous faire le coup de la liberté d'expression, c'est se foutre du monde.
Et donc il y a grève. Il y aura grève dimanche.
Si elle pouvait durer longtemps, cette grève.
Soutien.
Si elle pouvait durer 15 jours, cette grève. Cette grève.
Pascal Praud n'est pas de manière irrésistible sur le soutien en grève.
Non, non, mais bon, je vais vous dire. Là, il reste 3 ans avant la présidentielle.
Ah oui, ça va être chaotique.
Cette année a été, sur le plan politique, plus rude que l'année passée. Mais je pense que cette année est moins rude que l'année prochaine.
D'accord.
Les 3 prochaines années que nous allons vivre sont peut-être les plus rudes sur le plan politique depuis que je suis né. Pourquoi ? Pour une raison simple. La probabilité que Marine Le Pen soit présidente de la République existe. Elle est peut-être même grande. La gauche ne l'acceptera pas. La gauche médiatique ne l'acceptera pas. La gauche dans les universités ne l'acceptera pas. Ils n'accepteront pas cette démocratie.
Dans la rue, oui, mais alors...
Ils n'accepteront pas ça. Ça sera trop pour eux.
Oui.
Ça sera trop. Ils feront tout. Voilà, ça sera comme ça. Donc attendez-vous pendant 3 ans et plus après à une bagarre qui va être
effectivement virulente. Je vous accorde cette grille de lecture. Elle existe. Mais est-ce que je peux en ajouter une autre ?
Bien sûr.
Est-ce que vous pensez que tout ce qui a amené la gilet jaunisation de notre société est réglé ? Rien n'est réglé.
Non, mais là, donc, la gilet jaunisation, elle est sans doute avec
moi. Oui, mais je rajoute la question sociale. Je rajoute la question sociale.
Oui, mais dans le vote...
Exactement sur ce que vient de
dire par... Dans le vote...
Sur Colombe.
Dans le vote...
Écrit à pousser.
Dans le vote Le Pen... Il y aura les gilets jaunes.
Ouais,
ne vous trompez pas.
L'extrême gauche est meilleure. Hein.
Mais dans le vote Le Pen, il y aura des gilets jaunes.
En tout cas, ça va secouer. Oui.
Et si effectivement, quand cette dame qu'on a entendue tout à l'heure, professeure d'université, parle de fascisation du pays avec François-Xavier Bellamy, vous vous doutez bien que.
Je vous ai dit d'accord.
Mais quand je dis que ça va être tendu, ça risque de l'être
vous
forcément. Je l'invite d'ailleurs, cette dame. Hein.
Oui.
Moi, j'invite tous les gens. Tout le temps, vous avez remarqué. J'invite, si vous connaissez cette dame...
Ah bien, son nom, hein, vous avez retrouvé son nom.
Si vous connaissez cette dame, vous lui dites que nous l'invitons volontiers. Et je veux qu'elle m'explique en quoi M. François-Xavier Bellamy a fascisé la politique française.
Vous parlez de la... Ah oui,
la dame professeure dit, moi j'adorerais les avoir sur ce plateau.
Mais, oui, mais par ces mêmes gens, vous entendez aussi Macron assassin qui est juste dément, quoi. Je veux dire, c'est,
ah oui,
c'est juste
ah,
dément.
Bien sûr.
Vous l'entendez ça.
Donc ça va être
manifestation aujourd'hui. Vous entendez ça.
Ça va être tendu. Ça va être tendu parce qu'effectivement, ils ne l'accepteront pas. Ah bah après,
si elle était élue,
bien sûr,
fait que
ils ne l'accepteront pas. Il y a une tendance de gens qui n'acceptent pas manifestement le vote.
On peut ne pas souhaiter l'accession de Marine Le Pen.
Mais vous avez parfaitement raison. Mais vous avez parfaitement raison.
Ça reste quand même.
Quel rapport avec ce
non, mais je dis que de ne pas amalgamer ceux qui ne souhaitent pas ça à des violents ou des casseurs.
Je vous dis qu'il y a une partie de l'élite médiatique. Qui va, effectivement, des universitaires, de journalistes, etc., qui n'acceptera pas ça.
Parce que les Antifa et les Black Bloc, vous croyez qu'ils vont accepter eux aussi ?
C'est surtout là.
Ah ben, vous pouvez compter sur eux aussi.
C'est surtout là le problème.
Le monde culturel, hier soir, je regardais les Molières, le monde culturel, le monde, effectivement, littéraire, les intellectuels, etc. C'est pour ça que ces 3 prochaines années
vont être... Oui, mais le monde médiatique, Pascal, sera moins dangereux que... Les catégories dont parle Gilles William.
Oui, mais c'est pas grand chose, les Black Blocs, c'est pas grand chose. Mais il y aura effectivement des exactions, comme on dit.
Rajouter un peu de banlieue.
Il nous reste. Je suis pas sûr que ce soit là que ça vienne.
Ah, vous savez, les insoumis. Parce que les insoumis, ils souffleront pas sur la braise. Non.
Mais
on peut attendre d'eux une parfaite correction démocratique.
Je vous assure, c'est pas forcément de là que ça viendra, parce qu'il est possible qu'en banlieue, il y ait beaucoup de gens qui soient contents que Marine Le Pen les protège aussi.
Mais
enfin, ça peut exister. Ça peut exister.
Oui, enfin, d'accord.
Bon, parce que dans les banlieues, les premières victimes, parfois, c'est ceux qui habitent dans les banlieues.
Ils sont là, hein.
Ben oui, c'est bien. D'abord eux. Oui. Bien sûr, voilà, comme vous dites. Ouais. Bon, la flamme olympique, j'ai entendu Olivier Grégoire, alors ça m'a surpris, Olivier Grégoire, parce qu'une jeune femme en plus sympathique, agréable, mais alors, il y avait donc une réunion sur les thèmes du tourisme, de la circulation et de l'économie dans lesquels la sécurité des JO est abordée. À l'issue de cette réunion, Olivier Grégoire, ministre chargé des petites et moyennes entreprises, a fait un point sur l'organisation de la sécurité et la circulation lors des JO. Donc, si j'ai bien compris, quand tu vas au restaurant, tu vas passer un barrage. Tu passeras un barrage et il faudra que tu montes patte blanche ou QR code.
QR code. Hein.
Si j'ai bien compris.
Ouais.
Bon, moi, il est possible que je ne sois pas à Paris. Vous,
dans les sites, je serai là.
Vous serez évidemment en Corse, dans votre somptueuse propriété à cette période-là.
Bien sûr. Non, je serai début août, je suis ici.
Vous ne serez pas là.
Je viens.
Bon, écoutons Madame Grégoire.
Dans le périmètre des.
Oui. Vous avez compris comment ça va se passer ?
Mais non.
Ah bon ? Bah écoutez, Madame Grégoire, on va voir.
Voilà, écoutez-moi, il ne sera pas là.
Écoutons Madame Grégoire, parlez tout le temps.
Il sera toujours possible d'aller à pied au restaurant, si tant est qu'on ait réservé son restaurant. Il sera aussi toujours possible d'y aller, par exemple, en trottinette, en roller, en vélo. Il sera possible d'accéder à ces zones. Ce qu'on cherche à faire, c'est faire en sorte que tous les touristes, mais aussi, j'irai voir surtout ceux qui accueillent, les habitants, puissent continuer au maximum à avoir une vie le plus normale possible, tout en étant dans un périmètres de sécurité. Ce sera utile, dans le cadre des périmètres dits de sécurité, de montrer que vous avez effectivement réservé au restaurant.
Alors, il donne raison à tous ceux...
Non, mais c'est clair. Un sandwich. Ouais.
Non, mais il donne raison à tous ceux qui, pendant la... À tous ceux qui, pendant la période du Covid, on dit, vous étiez le premier, sur le fait qu'on s'en prenait aux libertés et qu'un jour ou l'autre, il y aura des conséquences. Là, pardonnez-moi, mais on est dans le même type de logique. C'est une différence de degré, parce que ce n'est pas une différence de nature.
Pour rentrer dans un stade de foot, pour aller au théâtre, il faut aussi un billet, pardonnez-moi.
Non, mais dans un restaurant.
Attendez. Et le restaurant.
Non, mais dans un restaurant.
Quand tu vas dans un stade de foot aujourd'hui, 200 mètres avant, t'es arrêté, puis il y a un contrôle et il te faut ton billet, ton QR code.
Non, mais dans un
but, c'est pas.
Non, mais juste une seconde.
C'est une pro-tendance Hidalgo.
Oui, ça, c'est
pas non, mais ça dure. Pendant 15 jours, vous n'allez pas avoir un QR code à chaque fois que vous allez manger au restaurant. C'est particulier. Les jeux, c'est arrivé une fois tous les 100 ans. Essayez un peu d'être nuancé. Le problème, c'est votre nuance qui vous manque dans ce plateau. Un peu de nuance.
Pour l'instant, il y a du sport, il y a du foot.
Oui, c'est ça. Voilà.
Non, c'est plus
mais
le même.
Non,
c'est plus le même. C'est plus le même.
On a changé.
C'est
fini.
Bon, pronostic pour ce soir.
Ah, musique. Tiens, j'ai une musique pour vous.
Ah oui.
J'ai une musique pour vous. J'ai une musique. Vous êtes un supporter de football.
Ah oui, je suis beauf, absolument.
Non, vous n'êtes pas beauf, mais votre club de cœur, c'est lequel?
En général, c'est pas... je n'aime pas le PSG.
Oui, mais c'est curieux comme réponse. Je vous demande votre club de cœur et vous dites celui que vous n'aimez pas. C'est quand même, en psychanalyse, c'est Reims. Intéressant. Reims. D'accord.
Ah oui, c'est depuis
nostalgie.
Depuis 1952.
Nostalgie.
Vous, votre club de cœur,
je n'aime pas les gros clubs pleins de fric.
Ça n'a pas de sens ce que vous dites.
Si, ça a du
sens. Mais alors, c'est idiot.
Non, c'est pas idiot.
Pardonnez-moi.
Ce que vous venez de dire, mais c'est idiot.
Mais tous les grands clubs ont de l'argent, c'est idiot.
Non, mais attendez. Quel rapport entre le PSG et Metz, par exemple?
Moi, je suis resté au CR, monsieur.
Moi, les Girondins de Bordeaux, mais à l'époque de Claude Metz. Mais là, c'était tenu.
Vous savez ce que le président Chabot, je vous ai dit, le président Chabot est rentré dans le vestiaire.
Girondins à fond. Allez, Bordeaux, allez-y carrément. Chers Français.
Non, mais écoutez, bien sûr, les clubs ont de l'argent.
Et je n'aime pas.
Vous avez tous
un pays comme le Qatar soit propriétaire du PSG.
Oui,
bon. Je ne voulais pas le dire moi-même.
Bon, ça c'est autre chose, mais il se trouve que l'argent permet effectivement d'avoir souvent les meilleurs joueurs dans les meilleurs clubs et de produire un football exceptionnel.
Pour la Coupe d'Europe, je ferai un effort.
L'argent a toujours existé. Vous avez un rapport avec l'argent. Les footballeurs gagnent de l'argent, les pilotes de F1 gagnent de l'argent, les golfeurs gagnent de l'argent, les basketteurs gagnent de l'argent, les chanteurs gagnent de l'argent. Oui. Mais pourquoi vous?
Bah non, vous ne gagnez
pas.
Mais bon. Il y a mauvais l'argent.
Non, mais vous dites, j'aime pas les gros clubs, c'est de la démagogie.
Non, je n'aime pas les clubs où l'argent dégouline.
Voilà, mais laisse tomber, c'est relationnel. Laisse tomber. Il n'y a rien à faire.
C'est terrible. Olivier Benkemoun est là. Non.
Il arrive dans 5 minutes, rassurez-vous.
Il arrive, c'est vous. Alors, il a pris.
Bonsoir Pascal.
Il a pris.
Comment ça va?
Très bien, et vous? Même au passage d'antenne, il faut qu'il parle.
Il gratte le ballon.
Vous vous rendez compte? Même au passage d'antenne. Lui, au foot, tu lui donnes le ballon, il revient jamais. Tu vois? Boum, tu ouvres les portes du stade, il court encore avec le ballon, il dribble encore. C'est formidable, il revient jamais le ballon.
C'est fou.
Johan, c'est fou comme ça. Johan, voilà. Parlez-moi de moi, il n'y a que moi qui. Johan.
Le meilleur de l'info.
Il n'est pas là cette semaine, il a pris quelques jours.
Il a pris quelques jours de vacances, alors je vais le remplacer. Je vais essayer de le remplacer parce qu'il était remplaçable, vous le savez. Comme vous, il était remplaçable, Olivier. Jusqu'à jeudi, ce sera donc moi le meilleur de l'info.
Jeudi.
Dans un instant. On va surveiller, vous l'avez évoqué évidemment, ce qui se passe à la Sorbonne, puisqu'une une intervention policière est en cours pour évacuer des étudiants qui bloquaient l'accès à la Sorbonne. On verra également ce qui s'est passé à Sciences Po, où là aussi des étudiants ont bloqué l'accès au bâtiment principal ce matin avec le soutien de certains professeurs. Et puis vous entendrez dans l'émission un témoignage édifiant, le témoignage de la présidente d'SOS Éducation. Elle affirme que des étudiants brillants avec un dossier absolument parfait seraient refusés à Sciences Po parce que juifs. Vous entendrez ce témoignage et on en parlera bien sûr dans le meilleur de l'info.
Si c'est vrai, effectivement, c'est un scandale. Henri de Mérindol était à la réalisation. Vision, Yanis Capra, Guillaume Marceau était au son, Benjamin Cuneo était avec nous, Lucas Consalves, Guilhem Lafage. Toutes ces émissions sont à retrouver sur cnews.fr. Vous pouvez répéter la dernière information que vous avez donnée, qui est importante.
SOS Éducation.
Oui.
Oui, un témoignage que vous allez entendre dans l'émission, la présidente de cette association qui affirme que des étudiants avec des dossiers absolument parfaits seraient refusés à Sciences Po parce qu'ils ont des noms à consonance juive.
Oui, bien sûr.
Donc, vraiment, je trouve. À vérifier, parce que ce
serait extrêmement. Oui, bien sûr.
Elle demande une enquête. Elle demande
Bien sûr. Merci à tous. Merci. Ne gardez pas Gilles-William Golnadel. Il a fait l'émission ce matin, il a fait l'émission ce soir. Si vous voulez.
J'ai un petit trou là, je vais rester 2 heures.
Bon. À demain matin. Bon 7 mai. Allez, Paris Saint-Germain, évidemment, et rendez-vous demain matin.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.